Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
J'ai soumis trois noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
Le camouflet du Parlement européen qui met Emmanuel Macron en colère ce soir. La candidate française à la Commission européenne, Sylvie Goulard, retoquée par les eurodéputés.
Les présidents les accusent de petitesse, dossier complet à Bruxelles et toutes les explications politiques avec David Doucan.
Dans l'actualité aussi ce soir, les ouvriers le craignaient, c'est confirmé, l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon va fermer.
Ça m'a coupé le souffle, ça m'a foutu un coup de couteau dans le cœur, C'est dur.
Plus de 600 emplois vont disparaître, nous serons sur place.
Dans ce journal également, des perquisitions à Rouen, chez Lubrizol.
Et à l'étranger, l'inquiétude qui grandit, l'offensive menée par la Turquie peut-elle ressusciter Daesh? On posera la question à Didier François.
Et on y reviendra longuement avec nos grandes voix dès 18h30. Enfin, un moment de politique surprenant, François Fillon qui réapparaît et se lâche. Ça se passe à la télévision suisse. Hein.
Quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà.
Macron, petit joueur, on vous fera entendre la séquence complète. La Bourse de Paris reprend des couleurs en forte hausse, plus 1,27% à 5 569 points.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien demain, c'est le grand retour du soleil sur une très grande partie du pays et les températures sont estivales dans le sud.
Europe 1.
Elle était la candidate de la France, la candidate choisie par Emmanuel Macron pour rejoindre la nouvelle Commission européenne. Et la claque est violente, c'est du jamais vu. Un candidat français retoqué, Sylvie Goulard, a vu son nom tout simplement rayé de la liste par les députés européens. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir Sébastien.
On vous retrouve à Bruxelles pour les explications. Sylvie Goulard passait aujourd'hui son deuxième grand oral devant les parlementaires. Elle a essuyé un camouflet, un vote extrêmement clair.
Oui, sans appel, hein, en commission parlementaire, 82 élus ont voté contre elle, 29 pour elle seulement. Un vrai séisme politique à Bruxelles. Dès ce matin, pendant l'oral de rattrapage, on avait senti les réticences des élus sur 13 questions posées. 8 questionnaient encore l'intégrité de Sylvie Goulard et notamment le fait qu'elle ait été payée par une fondation américaine pendant son mandat d'eurodéputée. Écoutez Manuel Bompard de la France Insoumise.
Pensez à ses ouvriers, ses employés, ses salariés, aujourd'hui au chômage en raison de l'appétit féroce de quelques financiers. Pensez-vous leur donner confiance alors que vous avez reçu 330 000 euros au total de la part du propriétaire d'un fonds vautour américain ?
L'autre volet sur lequel elle a été à nouveau attaquée, c'est l'affaire des assistants fictifs du MoDem, celle qui l'a conduite à quitter le ministère des Armées il y a 2 ans, au nom des conservateurs européens. François-Xavier Bellamy est revenu sur ce point.
Vous aviez évoqué il y a quelques années, alors membre de ce Parlement, la nécessité de ne choisir pour la Commission européenne que des personnes absolument irréprochables. Et c'est cet impératif de confiance retrouvée en la vie politique qui vous avait conduit à démissionner en France. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, nous ayons besoin de cette transparence et de cette sécurité ?
Alors on a entendu beaucoup d'élus français de l'opposition ici ce matin, mais il ne faut pas s'y tromper, ils n'ont été que les porte-parole des autres nationalités, ce que l'ampleur du vote reflète.
Isabelle, la question qu'on se pose ce soir, c'est maintenant que Sylvie Goulard est écartée, est-ce que la France va pouvoir conserver ce portefeuille immense qui lui était attribué ?
C'est désormais la priorité numéro 1 et quelques minutes après le résultat du vote, elle était déjà dans l'esprit des proches du président Macron. La France veut absolument sécuriser ce portefeuille inédit qui va des normes à l'industrie en passant par le numérique, l'audiovisuel ou encore la défense. Est-ce que ça va être possible ? Il va falloir trouver rapidement un ou une candidate avec les épaules assez larges pour y prétendre de façon crédible.
Isabelle Horry à Bruxelles, merci. Et Emmanuel Macron a réagi tout à l'heure.
Moi je ne comprends pas. Comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis 3 noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend. Et puis à la fin, on dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Il faut qu'on m'explique.
Bonsoir David Doucan.
Bonsoir.
On a rarement vu, entendu le président Emmanuel Macron aussi offensif, aussi en colère.
Oui, il est même furieux parce qu'on parle beaucoup de claque depuis tout à l'heure. C'est un uppercut pour le président de la République, en particulier ce président dont l'identité repose sur l'incarnation du projet européen. Et là, l'Europe lui dit de bien vouloir retourner à ses chères études. C'est tout simplement insupportable pour Emmanuel Macron. Donc que fait-il ? Il balance tout. Toutes les coulisses du choix qui avait tant surpris à l'époque, celui de proposer Sylvie Goulard. Et il charge la présidente de la Commission. Il l'avait prévenue du risque, elle l'avait rassurée en obtenant un accord des présidents, des groupes parlementaires. On apprend tout cela de la bouche d'Emmanuel Macron. Alors, il laisse s'exprimer sa colère, ressentiment, petitesse. Son entourage ajoute « jeu politique ». Le président et ses proches décrivent en fait une machination. Les conservateurs européens auraient piégé Emmanuel Macron parce que leur candidat Manfred Weber avait été blackboulé au moment de la formation de la commission. Reste que ce rejet inédit pour la France affaiblit Emmanuel Macron. Lorsqu'il fut élu en 2017, c'était sur l'air de l'ode à la joie. Deux ans plus tard, les amoureux de l'hymne européen peuvent craindre d'avoir perdu leur champion.
David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Réaction très nombreuse ce soir dans la classe politique. L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot accuse le président d'avoir affaibli la position de la France en Europe. Il sera l'invité de la matinale à 8h20 demain matin. La France ridiculisée, réagit Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen pointe un désaveu cinglant. Emmanuel Macron apparaît de plus en plus isolé en Europe, écrit-elle sur Twitter. Écoutez l'eurodéputé du Rassemblement National, Jordan Bardella.
C'est évident une victoire pour les députés, c'est une victoire, je crois qu'il y a eu un sursaut démocratique aussi. C'est surtout une deuxième défaite consécutive pour Emmanuel Macron, puisque après avoir été battu dans les urnes le 26 mai, il voit là un nouveau désaveu de son choix par les députés européens. En réalité, la France n'a jamais été aussi isolée sur la scène européenne. Elle est aujourd'hui en plus humiliée parce que c'est la première fois qu'un poste de commissaire européen proposé par un chef d'État est rejeté pour un pays fondateur, pour un pays comme la France. Donc c'est évidemment un désaveu et un nouvel échec pour Emmanuel Macron qui a de plus en plus de mal à convaincre, que ce soit en France mais aussi au niveau européen.
Jordan Bardella, joint par Adrien Beck pour Europe 1.
Et on en reparle avec les grandes voix à 18h30, à 19h10 également la réaction en direct de Geoffroy Didier, eurodéputé Les Républicains. Il sera l'invité politique de David Doucan.
Il est 18h06, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Cela fait des semaines qu'ils craignaient la fermeture de leur usine. Les ouvriers Michelin du site de La Roche-sur-Yon ont eu la terrible confirmation ce matin de la bouche de leurs dirigeants venus leur annoncer. Fermeture d'ici la fin de l'année prochaine, 619 emplois vont disparaître.
Maud Descamps, vous êtes sur place pour Europe 1. Colère et incompréhension chez la salariée, Maud, hein ?
Oui, exactement. Des salariés rassemblés depuis ce matin ici sur le parking de leur usine où d'ailleurs des pneus et des palettes brûlent depuis plusieurs heures en signe de contestation. Des salariés qui, à l'instant où je vous parle, sont en train de bloquer la voiture des dirigeants qui essaient de quitter le site. Certains ouvriers comme Françoise, plus de 20 ans chez Michelin, sont encore sous le choc de cette annonce faite ce matin.
Ça m'a coupé le souffle, ça m'a foutu un coup de couteau dans le cœur, voilà quoi. C'est dur, c'est très dur.
Et un sentiment qui domine ici ce soir, et ça a été le cas d'ailleurs toute la journée, c'est l'amertume de ces 619 salariés qui ont fourni beaucoup d'efforts pour sauver leur activité ces trois dernières années. Gigi est ouvrière, elle a 54 ans, et elle a l'impression, m'a-t-elle dit, d'avoir été menée en bateau par les dirigeants de Michelin.
Moi, je pense que c'est prendre les ouvriers pour des moins que rien. On nous a pris pour des imbéciles. On nous a vendu du rêve il y a 5 ans avec le projet Skipper, avec 100 millions d'investissements, et au bout du compte, il n'y a plus rien, quoi.
Les salariés de l'usine ont prévenu qu'ils ne reprendraient pas le travail tant qu'il n'y aurait pas de négociation avec la direction.
Maud Descamps, envoyé spécial d'Europe 1 à La Roche-sur-Yon. Et ce soir, le directeur France de Michelin, Jean-Paul Tchocchetti, sera l'invité écho d'Emmanuel Dutheil. Rendez-vous tout à l'heure à 22h20. Autre dossier social, celui de General Electric, le blocage du site de Belfort, visé par un vaste plan social, s'est poursuivi. Aujourd'hui, General Electric a annoncé avoir vouloir supprimer un millier de postes en France, dont quasiment 800 à Belfort.
À Paris, Sébastien, l'occupation de la place du Châtelet par les militants écologistes, elle se poursuit.
La quatrième journée, aujourd'hui, ils ont étendu leur blocage à la rue de Rivoli, axe très fréquenté en plein centre de la capitale.
Et puis à Rouen, les bureaux de Lubrizol ont été perquisitionnés ce jeudi.
Oui, l'enquête continue deux semaines après l'incendie. Perquisition aussi dans l'entreprise voisine Normandie Logistique, dont les dirigeants se sont exprimés pour la première fois. Lubrizol pointait leur entrepôt comme point de départ de l'incendie. Le directeur général Christian Boulocher dément.
Nous, on a fait avec des experts une analyse. Tout nous laisse à penser que ce n'est pas parti de chez nous. Ce n'est pas un silence qui cache quoi que ce soit. On n'a rien à cacher. Nous étions tous mobilisés sur la première des priorités de mettre le site en totale sécurité. La taille de notre équipe a fait que nous sommes 100% mobilisés sur ce sujet. Il faut garder la plus grande lucidité possible. La soudaineté est passée, les urgences sont passées. On va pouvoir se poser, on va pouvoir travailler et aller dans le bon sens, quoi.
Propos recueillis par Hélène Terzian à Rouen. Et demain, ce sont trois ministres qui retournent sur place. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, celle de la Transition écologique, Elisabeth Borne, et Didier Guillaume pour l'agriculture, alors que les restrictions dans les exploitations ne devraient pas être levées avant le début de la semaine prochaine. Le visage du djihad au féminin, voilà ce qu'a décrit tout à l'heure devant les assises de Paris l'avocate générale, procès du commando de femmes pour la tentative d'attentat. Vous vous souvenez, des bonbonnes de gaz avaient été disposées dans une voiture près de Notre-Dame. Des peines de 25 et 30 ans de réclusion criminelle ont été requises contre deux des accusés.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, l'offensive turque dans l'Orc de la Syrie peut-elle ressusciter Daesh? Cela inquiète et Didier François est dans ce studio pour nous éclairer sur la situation.
Et puis François Fillon réapparaît et se lâche, vous allez l'entendre à la télévision suisse.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Avec d'abord une pastille sonore qui va faire parler, qui va être commentée assurément, Sébastien. On n'avait pas entendu le son de sa voix depuis des mois, hein, il faut le dire, François Fillon est apparu aujourd'hui.
Oui, François Fillon en retrait, en attendant son procès prévu en février, participait à un débat aujourd'hui à Genève, retransmis sur la télévision suisse. Et il a notamment commenté la crise des Gilets jaunes sur un ton, disons, amusé. Écoutez bien, Emmanuel Macron appréciera sûrement d'être traité de petit joueur.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose, cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà. Si cette crise a déstabilisé aussi profondément un gouvernement légitime venant d'être mis en place, c'est pas bon signe, quoi.
Voilà, François Fillon, le sourire aux lèvres sur la RTS, la télévision suisse.
Ouais, c'est bizarre qu'il repasse hein, juste avant l'élection chez les Républicains. Hein, ce sera samedi. En tout cas, retour remarqué. On en vient maintenant, si vous le voulez bien, à cette inquiétude qui grandit et pour cause dans le monde entier, alors que l'armée turque a débuté son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie.
L'offensive qui fait craindre une crise humanitaire. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce soir et la France a convoqué l'ambassadeur turc et s'inquiète des conséquences de cette opération. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Tout à l'heure, le président français a pointé le risque d'aider Daesh à reconstruire son califat. Oui. Pourquoi il y a tant matière à s'inquiéter?
Parce que le problème, c'est que pour résister à l'offensive turque, les miliciens kurdes ont dû mobiliser la totalité de leurs forces. Et donc, ils ont très sérieusement dégarni les contingents qui étaient stationnés dans les régions récemment reprise à Daesh. Or, ce sont évidemment des zones dans lesquelles l'État islamique peut encore compter sur de nombreux sympathisants et dans lesquelles il dispose d'un fort réseau de cellules d'action clandestine. Ces djihadistes sont aujourd'hui beaucoup plus libres d'agir qu'hier, puisqu'ils ne sont plus sous la puissance, sous la pression d'actions militaires menées conjointement par les Kurdes et les forces spéciales occidentales, l'offensive turque ayant mis, dans les faits, un coup d'arrêt aux opérations de la coalition antiterroriste.
Et on en voit déjà les effets sur le terrain?
Oui, absolument. Juste avant le début des bombardements turcs, un commando suicide de Daesh a lancé une attaque avec des kamikazes et voitures piégées contre le siège des unités de sécurité intérieure kurdes en plein centre de Raqqa. Et depuis 24 heures, de nombreux comptes rendus font également état d'embuscades, de poses de mines réalisées par les djihadistes de Daesh sur les routes de ravitaillement utilisées par les Kurdes pour envoyer leurs renforts sur le front. Alors on voit bien que, même s'il n'y a pas de coordination formelle entre l'armée turque et l'État islamique, l'organisation terroriste a bien saisi l'opportunité offerte par cette offensive pour reprendre l'initiative militaire.
L'éclairage de Didier François, merci Didier.
Y a-t-il un risque de renaissance de Daesh? On y vient justement à 18h30, ce sera avec nos grandes voix dans ce studio. Et demain, ne manquez pas dans la matinale d'Europe 1 à 7h40, à l'Adissa, le représentant en France du Kurdistan syrien. Il sera l'invité de Mathieu Béliard.
En France, l'Assemblée nationale a débattu ce matin d'un nouveau dispositif destiné à protéger les femmes menacées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints violents. Un bracelet anti-rapprochement qui permet de les géolocaliser et de les maintenir à distance. Un dispositif qui existe déjà en Espagne. Henri de la Guérie, vous êtes notre correspondant. Quel bilan en font aujourd'hui les Espagnols?
Eh bien, c'est un bilan plutôt positif. En 10 ans, plus de 7000 femmes en ont bénéficié en Espagne. Aujourd'hui, 1371 dispositifs sont en fonctionnement. La justice peut poser ce bracelet sur un homme violent quelques heures seulement après une agression. Les juges ont en effet 3 jours maximum pour instruire un dossier après le dépôt d'une plainte. Pour Maria Angeles Carmona, présidente de l'Observatoire contre les violences de genre, le bracelet a fait ses preuves.
C'est un outil très efficace. On n'a jamais eu d'assassinat de la part de quelqu'un à qui on a imposé un bracelet. Et ça continue de sauver la vie de nombreuses femmes.
Mais les juges ne sont pas aussi enthousiastes. L'agresseur présumé peut en effet refuser le bracelet. Et pour certaines femmes, le boîtier dont elles disposent, eh bien, c'est une source de stress. Et puis, beaucoup de dispositifs qui fonctionnent avec un GPS et non par 4G sont défaillants, comme le souligne Julia Humet, avocate.
Les bracelets posent parfois problème. Ils ne fonctionnent pas toujours, les batteries peuvent se vider, le signal disparaît et la victime reçoit des messages d'alerte. Ça n'est pas toujours la solution idéale.
Voilà, le bracelet n'est pas un remède magique, mais ici, le nombre de féminicides a été réduit de près de 45% en 15 ans. Depuis le début de l'année, 46 femmes ont été assassinées en Espagne. En France, ce...
On a perdu visiblement Henri de Laguerie, petit souci de liaison, mais on avait compris l'esprit. Merci beaucoup Henri de Laguerie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
Et puis on va reparler de ce bracelet, justement, le bracelet anti-rapprochement, avec cette proposition de loi déposée par le député Les Républicains Aurélia Pradi. Il sera mon invité là dans 3 minutes.
Deux Nobel pour le prix d'un aujourd'hui en littérature. Il n'y en avait pas eu l'an dernier à cause d'un scandale lié au mouvement MeToo. Du coup, le comité a rattrapé le coup en récompensant une femme pour 2018, la Polonaise Olga Tokarczuk, et pour 2019, un homme, l'Autrichien Peter Handke. Il vit en France et vous l'entendrez dans le journal de 19h.
Parce que c'est là que vous revenez, mais avant, il y a 18h30, le rappel des titres, et ce sera évidemment en direct. Merci beaucoup Sébastien Krebs.